Chapitre 15. La lettre de Médor, un vieux lion qui s'éveille. C'était cette même nuit, nous ne l'avons pas oublié, aux environs de 11 heures, que l'amoureux tête-à-tête du comte Hector de Sabran et de mademoiselle Saphir avait été troublé par une lâche et violente attaque dans l'avenue qui longe le quai depuis l'esplanade des Invalides jusqu'aux abords du Champ de Mars. Et Saphir avait perdu connaissance au moment où le fiacre qui lui servait de prison s'ébranlait. La dernière parole qu'elle eut entendue était celle-ci, « À l'hôtel de Chavès ». Sa première pensée, quand elle reprit ses sens, dans un sombre et grand corridor où on la portait à bras, fut un vague souvenir de la douleur horrible qu'elle avait éprouvée en voyant Hector tomber sous le coup qui le terrassait. Qu'était-il devenu? Qui l'avait secouru? Était-ce une mortelle blessure? Et sa seconde pensée fut « Je suis à l'hôtel de Chavès ». C'était une courageuse enfant. L'effort de son âme brisée cherchait déjà où se reprendre pour espérer ou pour combattre. Les gens qui la portaient causaient. « Doucement, » dit l'un d'eux, celui qui semblait commander et qui tout à l'heure était avec elle dans le fiacre. « Madame la Duchesse est malade, elle doit avoir le sommeil léger. La moindre chose est que la nouvelle sultane favorite ne l'éveille pas en faisant son entrée à l'hôtel. Monsieur le Duc ne voit pas plus loin que sa fantaisie. Il traite le faubourg Saint-Honoré comme si c'était un trou perdu au fond du Brésil. Mais moi, qui suis un homme du monde, je veux au moins respecter les convenances. « Ce n'est toujours pas la petite qui fera du bruit, » dit un des porteurs. « Elle est comme morte. » « Il n'y a pas de ma faute, » reprit le vicomte Annibal Guillaujat, que le lecteur a sans doute reconnu dans le premier interlocuteur. « Je l'aimerais mieux un peu plus émoustillante, car monsieur le duc va nous revenir, ivre comme un polonais et d'humeur détestable pour tout l'argent qu'il aura perdu. Mais nous n'avons pas à choisir. Doucement, voici la porte de madame la duchesse. » Ils étaient montés par l'escalier de service de l'aile droite et passaient naturellement devant l'entrée des appartements de madame de Chavès. On fit silence, on écouta, toute cette portion de l'hôtel était silencieuse. D'un regard perçant, Saphir, que l'on croyait évanouie, essaya de reconnaître le lieu où elle passait ainsi. Nos hommes portaient de la lumière. Elle put voir toutes les particularités de la galerie, entre autres une lampe en bronze de forme antique qui pendait au plafond et dont la lueur achevait de mourir. À l'autre bout du corridor s'ouvrait le logis particulier de monsieur de Chavès. C'était là que se rendaient les porteurs de notre belle Saphir. S'il existait un instrument avec un nom finissant en « maître » pour mesurer l'orgie habituelle et brutale, nous dirions que monsieur le duc, dans ces derniers temps, en avait atteint les plus bas degrés. Il avait déserté le cercle illustre où les gens à la mode ruinent leur bourse et leur vie. Le sauvage avait fini par dévorer en lui le gentilhomme, et Guillaujat avait raison quand il comparait sa vie aux barbares débauches des aventuriers de l'autre hémisphère. Sans prétendre que Paris ne contienne pas quelques Parisiens de cette force, il est certain que nos riches lieux ont une tout autre tournure. Les petites maisons du dernier siècle qui contenaient 500 000 écus de meubles et de tableaux sont généralement démolies. Mais nos rouées, plus économes, font du moins leur farce en garnie. À Paris, le fait qu'un homme qui souille son propre nid est regardé comme le symptôme de la dernière décadence. Monsieur le duc n'était pas plus de Paris que les jaguars mexicains enfermés dans leur cage au jardin des plantes. Son appartement, très riche et orné à la créole, avait une couleur et des parfums énergiquement exotiques et rappelait le luxe grossier des aventuriers de l'Amérique espagnole. Il y avait beaucoup d'armes, surtout des armes du Mexique. Monsieur le duc avait été là maintes fois jouer ses homériques parties où chacun abrite son or derrière un couteau dégainé. Vous eussiez reconnu chez monsieur le duc tous les engins dont le nom fait si bien dans les récits du Nouveau Monde, le bobbing knife fabriqué dans les États de l'Union, ainsi que le rifle et le revolver Colt, auprès du mince poignard portugais et de cet instrument hideux, la sanglante machette. Au moment où Guy Hoja et ses compagnons entraient chez Monsieur le Duc, la chambre à coucher était vide, mais sous les draperies légères d'une galerie régnante qui rappelait l'éternelle véranda des habitations tropicales, on voyait deux nègres, de stature athlétique, étendus sur des nattes et dormant. Ils portaient la livrée de Chavès. Au bruit que fit la porte en s'ouvrant, ils se relevèrent sur leurs coudes et leurs yeux blancs brillèrent au milieu de leur face d'ébène. Les porteurs de saphir la déposèrent sur le lit. « Ici !» dit Guy Hoja. Les deux noirs se levèrent aussitôt. C'étaient des animaux magnifiques qui s'appelaient Saturne et Jupiter, comme les planètes ou les dieux. Guy Hoja leur parlait comme à des chiens. « Allez chercher son Excellence, leur dit-il, et dites-lui ce que vous avez vu. »« Maître Batra !» gronda Saturne. Guy Hoja leva une grosse canne qu'il tenait à la main. Les deux nègres courbèrent les chines et se dirigèrent vers la porte. « Si maître ne peut pas marcher, » ajouta Guy Hoja, en contrefaisant leur langage, « vous la porterez. » En France, il n'y a point d'esclaves. Jupiter et Saturne étaient des hommes libres. Dès qu'ils furent partis, le vicomte Annibal prit la lampe qui était sur la table et s'approcha du lit pour éclairer le visage de sa fille. Ils étaient là, quatre coquins fort bien vêtus. Leur emploi nécessite une certaine toilette, et dans la gamme de l'ignoble, leurs visages n'ont pas le même genre de bassesse que les visages des simples bandits. Il y a en eux du maquignon et de l'expert en œuvre d'art. L'admirable beauté de la jeune fille, soudainement illuminée par l'éclat de la lampe, leur sauta aux yeux comme un éblouissement. Ils eurent ce petit cri discret et pieux du dilettante saluant l'apparition de la diva. « Ah ! Firent-ils à l'unanimité, morceau de roi, combien ? » Guy Hoja cligna de l'œil. « Autant d'or et de billets de la Banque de France, répondit-il, que nous pourrons en emporter à nous quatre dans nos poches sous nos chemises, dans les formes de nos chapeaux, dans nos mouchoirs et dans les serviettes. Il y a en bas 3 500 000 francs qui sont à nous. » Les regards avides des trois compagnons du vicomte demandaient une explication. Guy Hoja se rapprocha de Saphir et passa par deux fois la lumière de la lampe au-devant de ses yeux. « Une belle statue de marbre, » murmura-t-il. Aucun muscle du visage de la jeune fille n'avait en effet tressailli. « Elle se gardera elle-même, » ajouta le vicomte Annibal en reposant la lampe sur la table. « Monsieur le duc se chargera de l'éveiller. Nous avions besoin d'elle pour entrer dans la place. Maintenant, notre besogne est ailleurs. » Il marcha vers la porte et les autres le suivirent. Le dernier coupa une bougie et la mit allumée dans sa lanterne. Ils traversèrent les corridors à pas de loup et descendirent l'escalier de service situé du même côté que le pavillon en retour où Madame la marquise de Rosenthal faisait sa résidence. Pendant qu'ils descendaient, ils purent entendre le bruit de la porte cochère ouverte à deux battants et une voiture roulant sur le pavé de la cour. « Déjà, son Excellence !» s'écria Guy Hoja. « Il faut voiter, mes braves. Du reste, vous serez traités en enfants gâtés. On a enlevé tous les cailloux de votre route. Les deux caissiers brésiliens ont bu ce soir des grogues qui leur donneront de beaux rêves jusqu'à ce qu'on les éveille à coups de bâton. » Ils arrivaient en bas. Le jardin fut traversé en suivant le mur du rez-de-chaussée. Vers le milieu de la route, Guy Hoja s'arrêta pour prêter l'oreille. « C'est la pluie, » dit un des trois compagnons. De grosses gouttes, en effet, recommençaient à tomber et sonnaient en frappant les branches des arbres. Nos quatre rôdeurs de nuit entrèrent dans le vestibule des bureaux. Il y avait parmi eux au moins un artiste de talent, car la porte principale fut crochetée en un clin d'œil. Ils pénétrèrent dans les bureaux mêmes et rendirent tout d'abord une visite de prudence aux caissiers et aux sous-caissiers qui dormaient comme des souches à droite et à gauche de la pièce où se trouvait la caisse. « Le grog était bien préparé, » dit Guy Hoja, « à l'ouvrage. » Les querelles entre deux fabricants célèbres ont révélé le néant des serrures à combinaison et à secret. Ce sont des obstacles insurmontables pour les profanes, mais les véritables adeptes de l'art s'en moquent comme d'un simple loquet qu'on soulève avec une ficelle. Un de ces messieurs portait une trousse mignonne et coquette autant que celle des chirurgiens à la mode. Il opéra. La serrure tâtée, sondée, caressée, livra son secret, et la caisse ouverte montra des piles d'or avec de monstrueux paquets de billets de banque. Saladin et les membres du club des bonnets de soie noire étaient bien renseignés. La caisse de monsieur le duc de Chavès contenait exactement les deux sommes annoncées. Guillaujat et ses compagnons se chargèrent à la hâte comme des mulets et n'eurent rien de plus pressé que de déguerpir. « Mon avaleur de sabre, dit Guillaujat en sortant le premier, va trouver l'oiseau d'or déniché. Je suis fâché de ne pas voir la figure qu'il fera. À la grille !» La pluie tombait à torrents. Malgré le bruit du vent et de l'orage, Guillaujat s'arrêta pour écouter une sorte de tumulte qui avait lieu dans l'aile habitée par monsieur le duc de Chavès. Il tourna la tête vers les fenêtres de son excellence et vit sur les carreaux des ombres qui se mouvaient violemment. « Qu'il s'arrange, murmura-t-il. » Et il continua son chemin vers la grille en disant à l'homme porteur de la trousse « Fais-nous sauter cette dernière grille !» Mais à ce moment même, il recula effrayé en se trouvant devant une porte ouverte. Son hésitation ne dura qu'un instant. « Éteignez la lanterne, dit-il, armez-vous, traversons le bosquet et sauf qui peut !» Ils s'élancèrent en effet sous les arbres. Dans cette nuit sombre et parmi les mille fracas de l'orage qui allaient redoublant, le bruit de leurs pas se perdit bientôt. Mais au bout de quelques secondes, on aurait pu entendre comme un éclat de rire dans les ténèbres diaboliques. « Ah !» fit une voix, « tu voulais voir la figure de l'avaleur de sabre !» Un éclair déchirant les nuages éclaira pour un instant un tableau ainsi fait. Quatre hommes, séparés par un large espace et entourés chacun par plusieurs bandits qui avaient le couteau levé. À l'écart, les membres du club Massenet formaient un groupe immobile au milieu duquel la figure blanche de Saladin ressortait sous ses cheveux noirs. Tout rentra dans la nuit. « Merci, dit encore la voix qui parlait à Guillaujat, tu as fait pour nous toute la besogne. » Le tonnerre gronda après l'éclair. Pendant que les échos prolongeaient l'explosion, la voix ordonna « Coupez la branche !» Il y eut des cris étouffés, un râle plaintif, puis le silence. Aussitôt que Guillaujat et ses compagnons eurent quitté la chambre à coucher de monsieur le duc de Chavès, mademoiselle Saphir ouvrit les yeux et releva sa tête pâle. La belle statue s'animait. Il y avait dans son regard une résolution virile. Un instant, elle écouta les bruits des pas qui s'éloignaient, et puis elle sauta hors du lit et se dirigea à son tour vers la sortie. « Il n'y a qu'un seul corridor, dit-elle, et je dois retrouver aisément l'appartement de madame la duchesse de Chavès. » Ses pas, qui d'abord avaient chancelé, se raffermirent à mesure qu'elle marchait. Il y avait en elle un courage solide, et la pensée d'envoyer du secours à Hector la soutenait. La galerie était longue et plongée dans une obscurité presque complète. Tout au bout, cependant, on voyait luire encore, par éclats intermittents, la lampe mourante. Saphir parvint jusqu'à cette place où le vicomte Guillaujat avait dit doucement « N'éveillons pas, madame la duchesse ». Il y avait là plusieurs portes. Au hasard, Saphir tourna le bouton de l'une d'elles, qui s'ouvrit. C'était une chambre obscure, à l'extrémité de laquelle une large ouverture, garnie de portières relevées, laissait voir une seconde pièce où une lampe brillait. La lampe était posée sur un guéridon auprès d'un lit qui supportait une femme étendue. Madame de Chavès avait la tête appuyée contre sa main et lisait, et Saphir pouvait voir son beau visage languissant et décoloré. Elle appuya sa main sur sa poitrine où son cœur bondissait. Madame de Chavès semblait absorbée profondément par sa lecture. Nous connaissons la lettre qu'elle tenait à la main. Elle avait été écrite cette nuit même dans la salle d'attente du rez-de-chaussée par l'un de ces deux personnages qui avait demandé madame la duchesse puis monsieur le duc avec tant d'insistance. La lettre était ainsi conçue. « Madame, voilà bien des fois que je viens. » C'est moi qui vous ai envoyé le portrait de Lily tenant Petite Reine dans ses bras. Petite Reine n'est pas morte, Justine vit, et vous la retrouverez digne de vous, malgré le bizarre métier auquel le sort l'a réduite. Elle est avec de pauvres bonnes gens qui lui ont été secourables et à qui vous devez de la reconnaissance. Elle danse sur la corde, elle la nomme Mademoiselle Saphir. Madame, je veux vous voir parce qu'un grand danger la menace, et vous aussi peut-être. Je reviendrai demain matin de bonne heure, fussiez-vous malade ou à la mort, il faut que je sois introduit près de vous. Ce message était signé d'un nom que Madame de Chavès avait lu tout de suite avant même de parcourir les premières lignes et qui éveillait en elle un monde de souvenirs, Médor. Autrefois, le brave garçon ne savait pas écrire, et l'écriture de cette lettre ressemblait, était-ce possible? Lily se sentait devenir folle. Elle lisait pourtant, laborieusement, le cœur serré par l'angoisse, car elle avait déjà été trompée, mais le cœur soulevé aussi par d'immenses élans de joie. Quand elle l'eut achevé, sa tête s'inclina sur sa poitrine. « C'est le nom que m'a donné Hector, » murmura-t-elle, « le nom de celle qu'il aime et que j'aimais en l'écoutant, Saphir. » Dans le silence, une douce voix s'éleva qui dit « Vous m'appelez, madame, me voici, je suis Saphir. » La duchesse, stupéfaite, leva les yeux. À quelques pas d'elle, la lumière éclairait une jeune fille belle, plus belle que ses rêves de mère amoureuse. Madame de Chavès voulut s'élancer hors de son lit et serait tombée sur le tapis si Saphir ne l'eût retenue dans ses bras. Lily, pendue ainsi au cou de la jeune fille et baignant son regard dans ses grands yeux bleus fixés sur elle avec des larmes, balbutiait « Ah, c'est toi cette fois, je t'ai si souvent revue, c'est toi, mais bien plus belle. Oh, je suis éveillée et j'ai ma fille sur mon cœur. » « Puissiez-vous dire vrai, madame, répliqua Saphir, car toute mon âme s'élance vers vous, mais je viens vous parler d'Hector qui est peut-être en danger de mourir. » La duchesse ne comprenait point. Saphir se dégagea de ses bras et courut vers le secrétaire ouvert où il y avait des plumes, de l'encre et du papier. Elle écrivit rapidement deux lignes. « Cher père et chère mère, rassurez-vous, je suis sauvée. Un autre reste en péril. Prenez avec vous nos hommes et courez dans l'avenue du Quai d'Orsay, à la hauteur du pont de l'Alma, vous trouverez un blessé, et vous lui donnerez votre aide pour l'amour de moi. » « Hector blessé ? » dit la duchesse, qui lisait par-dessus son épaule. Saphir pliait déjà la lettre. Elle sonna elle-même. « Vous allez envoyer sur le champ, madame, dit-elle, une personne sûre. » Si nous allions, commença madame de Chavès, nous irons, ou du moins j'irai, car vous êtes bien faible, mais il faut envoyer d'abord. Une femme de chambre se présentait. Saphir la regarda en face. Celle-ci est dévouée, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à madame de Chavès. La duchesse répondit. Je suis sûre d'elle. L'instant d'après, Brigitte partait en courant avec les instructions précises qui devaient lui faire trouver le Théâtre Canada. Elle avait ordre d'éveiller, en passant dans la cour, le cocher de madame la duchesse et de faire atteler. Tout cela n'avait pas pris 5 minutes. La duchesse et Saphir, seules de nouveau, étaient assises l'une auprès de l'autre sur le canapé où l'avant-veille, mademoiselle Guitte, avait ronflé. Madame de Chavès voulait savoir par quel miracle Saphir était en ce lieu à cette heure, mais elle voulait savoir tant d'autres choses. Chaque fois que la jeune fille commençait son récit, une pluie de baisers l'interrompait. La duchesse était guérie, la duchesse était folle de joie. Elle comparait avec triomphe les transports croissants de sa tendresse aux hésitations qu'il avait prises si vite en présence de l'autre. Elle parlait de l'autre à Saphir, qui ne pouvait pas la comprendre puisqu'elle ignorait toute l'histoire de mademoiselle Guitte. La duchesse interrogeait, elle coupait les réponses, elle remerciait Dieu, elle riait, elle pleurait, elle faisait envie et pitié. Sa beauté avait des rayons. On n'eût point su dire laquelle de Saphir ou d'elle était belle le plus admirablement. « Ah, je ne t'empêcherai jamais de les voir, ces braves gens, » disait-elle. « Ah, ce n'est pas assez, cela, ils demeureront avec nous, ils seront toujours ton père et ta mère. Et figure-toi que j'étais allée avant-hier soir avec Hector pour te voir danser. Ah, quelle providence qu'Hector ait pu te rencontrer, t'aimer !» Et comme une larme à ce nom venait aux yeux de la jeune fille, madame de Chavès la sécha à force de baiser. « Ah, ne crains rien, » dit-elle, « Dieu est avec nous maintenant. » Il ne faudrait pas mettre une douleur parmi tant de joie. Ah, nous allons retrouver Hector. L'aimes-tu bien ? » Ceci fut murmuré d'une voix jalouse déjà. Elle sentit les lèvres froides de Saphir sur son front et la serra passionnément contre sa poitrine. « Ah, tu l'aimes bien, dit-elle. Tant mieux. Ah, si tu savais comme il t'aime, lui. J'étais sa confidente et je le grondais d'adorer comme cela une, je puis bien dire le mot maintenant, une saltimbanque. Il me semble que je t'aime plus profondément à cause de cela. Je ne t'aurais jamais vu danser, moi, car tu ne danseras plus. » Mais tu l'aimeras mieux que moi, n'est-ce pas? Il faut se résigner à cela. Ma mère, murmurait Saphir, qui l'écoutait avec ravissement. Je ne puis mieux exprimer la vérité qu'à l'aide de cette parole. Saphir écoutait Madame de Chavès comme les mères écoutent le babil désordonné des chers petits-enfants. Les rôles étaient retournés. Madame de Chavès était l'enfant. Il y avait en elle à cette heure l'allégresse turbulente du premier âge. Elle ne se possédait plus. « Ah, je vais être bien jalouse de lui, » dit-elle, « c'est certain. Ah, heureusement qu'il était comme mon fils avant cela. Je tâcherai de ne point vous séparer dans mon amour. » « Mais, » s'interrompit-elle joyeusement, « tu as donc été jalouse aussi, chérie, jalouse de moi, ce jour où nous nous rencontrâmes sur la route de Maintenon. Je vous avais vue si belle, ma mère, » commença la jeune fille. « Tu me trouves donc belle, » interrompit encore la duchesse. « Moi, je ne saurais pas dire comment je te trouve. Tu ressembles, » elle allait dire, « à ton père, » mais n'acheva pas, et un voile de pâleur descendit sur son visage. « Écoute, » fit-elle mystérieusement, « tout à l'heure, dans cette lettre qui me parlait de toi, je croyais reconnaître son écriture. « Mais, » se reprit-elle, « que vais-je dire là? Je perds la tête tout à fait. » Comment me comprendrais-tu, puisque tu avais un an à peine? Tiens, regarde, te voilà. » Elle s'était levée, plus pétulante qu'une vierge de 16 ans, et avait été chercher dans son livre d'heures la photographie envoyée par Médor. Elle l'apporta, disant avec le rire franc des heureuses, « Regarde, regarde, te reconnais-tu ? » Saphir était émue et toute sérieuse. « Je ne reconnais que vous, ma mère, dit-elle en portant le portrait à ses lèvres, mais il y a en moi un trouble étrange, une fatigue que je ne saurais définir. C'est comme si ma mémoire comprimée allait éclater. Il me semble que je me souviens, mais non, j'ai beau faire, je ne me souviens pas. Aujourd'hui comme autrefois, je suis ce nuage bercé entre vos bras bien-aimés. » Madame de Chavès l'attira doucement contre son cœur, et baissant la voix jusqu'au murmure, elle dit « Tu avais autrefois… » Elle s'arrêta presque confuse, et Saphir rougit dans un délicieux sourire. « Comment donc l'autre l'avait-elle fait ? » pensa tout haut Madame de Chavès, qui ajouta « Tu sais bien de quoi je parle, le signe. » « Ma cerise, » dit tout bas Saphir, dont les cils de soie se baissèrent. Elles riaient toutes deux avec un trouble où il y avait une ineffable pudeur. « Je suis juge, » dit Madame de Chavès gaiement, « et j'examine ton acte de naissance. C'est un interrogatoire, mademoiselle. De quel côté ?»« Ici, » répliqua Saphir, en posant le bout de son doigt rose entre son épaule droite et son sein. Madame de Chavès effleura ce doigt d'un baiser et dit si bas que Saphir eut peine à l'entendre, « Je veux voir. » « Et je veux que tu voies, » répondit la jeune fille, qui la tutoyait pour la première fois. Ce furent encore des baisers. Puis Saphir s'assit et la duchesse, agenouillée devant elle, commença, d'une main qui tremblait, à détacher les agrafes de sa robe. Elle n'acheva pas ce travail charmant parce que Saphir lui saisit les deux mains en poussant un grand cri d'épouvante. La duchesse se leva, effrayée à son tour, et regarda en arrière, suivant le doigt tendu de Saphir qui montrait la baie drapée des portières par où elle était entrée. Il y avait là deux visages noirs, éclairés par des yeux blancs qui semblaient étinceler. « Que faites-vous là ?» balbutia la duchesse, bégayant de colère en même temps que de frayeur. Entre les deux faces d'ébène de Saturne et de Jupiter, une troisième figure se montrait, celle-ci plus haute et d'un bronze rougeâtre. Monsieur le duc de Chavès était ivre, mais non point tant qu'il avait coutume de l'être en rentrant à 16 heures de la nuit. Il n'avait perdu que la raison, l'aplomb et la force du corps restaient. On était venu l'interrompre avant la fin de son orgie quotidienne. « Cette belle enfant est à moi, » dit-il. parlant le français aussi péniblement que jadis. Pourquoi m'a-t-on forcé de la venir chercher jusqu'ici ?
C'est ma fille, répondit Madame de Chavès, d'une voix que l'angoisse étranglait dans sa gorge.
Le duc se prit à rire et fit un geste. Les deux noirs s'ébranlèrent.
« Vous mentez, dit-il, votre fille est dans le pavillon. »
« C'est ma fille, répéta Madame de Chavès, qui fit un pas à la rencontre des deux noirs.
Ceux-ci reculèrent, interdits.
Monsieur le duc avait une cravache qui siffla deux fois. Le sang jaillit de l'épaule gauche de Saturne et de l'épaule droite de Jupiter.
« Combien donc avez-vous de filles ? » demanda-t-il brutalement. « Enverrons-nous une chaque semaine ? Diable, mais cargo, moi qui perds toujours, j'ai eu du bonheur ce soir. Celle-ci est achetée et payée. »
Son rire énervé continuait. Il plongea ses deux mains dans ses poches et des poignées d'or roulèrent en s'éparpillant sur le tapis.
« Voyez plutôt, ajouta-t-il, je la paierai deux fois si l'on veut. »
Et puis, s'adressant au noir,
« Apporte, pedicabra !»
La cravache siffla de nouveau. Les deux nègres se précipitèrent, et malgré les efforts désespérés de Madame de Chavès, ils s'emparèrent de Saphir, qui restait pétrifié par l'horreur.
« Allez !» ordonna le duc.
Les deux noirs enlevèrent Saphir, et il s'apprêta à les suivre.
« Mais c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille !» cria la malheureuse femme avec démence en s'accrochant à ses vêtements.
Il se débarrassa d'elle d'un geste violent, et ne se détourna même pas pour la voir tomber évanouie. Nous avons entendu rentrer Monsieur le Duc au moment où Hannibal Guilloja et ses compagnons prenaient l'escalier de service pour gagner, par le jardin, les bureaux de la compagnie brésilienne. Monsieur le Duc avait reçu le message d'Hannibal au milieu d'une veine inusité qui amoncelait devant lui des tas d'or. Il n'avait pas même hésité, tant sa fantaisie était grande. En arrivant, il s'était fort étonné de ne trouver ni Hannibal ni la danseuse de cordes. Saturne et Jupiter, effrayés par la colère terrible qui lui montait au cerveau, s'étaient mis à chercher. Saphir avait laissé entr'ouverte la porte des appartements de la duchesse, et les deux noirs, guidés par le bruit des voix, n'eurent pas de peine à retrouver sa piste. Le lecteur sait le reste. Au milieu de la chambre de Monsieur le Duc, il y avait sur la table une bouteille de rhum débouchée et un verre à demi plein. Saphir fut déposé sur le lit où, déjà une fois, on l'avait étendu. Les deux noirs, remerciés par un dernier coup de cravache, furent mis dehors et le duc poussa la porte sur eux, après quoi il vint vider son verre de rhum. Il avait toujours ce rire hébété des gens ivres. En allant de la table au lit, il grommela quelques mots portugais entremêlés de jurons, et puis il se planta devant sa fille, qui le regardait avec ses grands yeux épouvantés, et se dit à lui-même « Rayos, Hannibal avait raison, voici une belle créature !» Et, sans autre préambule, ses deux bras voulurent enlacer la taille de sa fille. « Mais à quelque chose malheur est bon, dit le proverbe, et les dures traverses de l'adolescence de Justine l'avaient faite du moins forte comme un homme. C'était un de ces grands lits carrés qui n'ont pas de ruelles. Saphir raidit sa taille souple et, se débarrassant de l'étreinte du sauvage, elle le repoussa pour sauter d'un bond de l'autre côté du lit. Le duc ne rit que plus fort.
« Après, dit-il, j'aime cela. Elles sont ainsi dans mon pays, les macacas des diables. Ha ha, il va falloir se battre. Battons-nous, ma belle. Je ne déteste pas les griffes des panthères ni les dents des tigresses. »
Il se versa un verre de rhum et l'avala d'un trait, puis il fit le tour du lit. De ce côté, Justine n'avait pas d'issue. Elle essaya de bondir une seconde fois par-dessus la couverture, et ce lui était chose aisée, mais Monsieur de Chavès la ressaisit par sa robe, qui craqua sans se déchirer. Seulement, les dernières agrafes de son corsage, attachées toutes à la fois, découvrirent son fichu, tandis que ses cheveux dénoués inondaient ses épaules. Elle tomba sur le lit dans une pose qui la faisait splendide à voir. Le duc poussa un râle de fauve.
« Sur mon salut éternel, dit Justine, dont les deux mains étaient déjà prisonnières, je suis la fille de votre femme. »«
Tu mens, répondit le duc en poursuivant sa victoire. C'est l'autre qui a le signe. Ah, bestiaga, l'autre n'était pas si méchante que toi. »
Justine parvint à dégager l'une de ses mains, et d'un geste désespéré, elle arracha elle-même le fichu, dernier voile qui défendit sa poitrine. Le duc recula. Il ne pouvait plus douter, mais ses yeux avides s'injectèrent de sang, et un rauquement gronda dans sa gorge.
« Bourrard, dit-il, que me fait cela? Tu es trop belle !»
Ce qui aurait dû arrêter sa brutale passion l'exalta jusqu'au délire. Il se rua sur la jeune fille, et dans la lutte horrible qui suivit, tous deux franchirent la largeur du lit pour retomber de l'autre côté. Là, Justine resta sans mouvement, et la bête fauve, victorieuse, gronda.
« Ostraios mescartejao, je suis le maître !»
Mais, à ce cri de barbare triomphe, une voix froide et tranchante comme l'acier répondit «
Relevez-vous, monsieur le duc, je ne voudrais pas vous tuer par terre. »
Monsieur de Chavès crut d'abord avoir mal entendu. Il redressa la tête sans se retourner. Mais la voix répéta, d'un accent plus impérieux, « Monsieur le duc, relevez-vous !» Il se retourna enfin et vit sur le seuil un homme qu'il ne connaissait pas. C'était un personnage de haute taille, maigre, et vêtu de noir de la tête aux pieds. Il avait un grand visage pâle, avec des yeux fiers mais mornes et voilés par une sorte de brume. Sa barbe était grise, ses cheveux étaient blancs. Monsieur de Chavès s'était retourné tout étourdi, mais l'aspect de cet inconnu fouetta sa double ivresse et lui rendit une partie de son sang-froid. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il avec hauteur. L'inconnu ouvrit une large redingote et en tira deux épées, dont il jeta l'une sur le parquet aux pieds de monsieur le duc. « Mon nom importe peu, dit-il. Voici bientôt 15 ans, vous m'avez pris ma femme au moyen d'une lâche tromperie. Dès ce temps-là, vous auriez pu lui rendre son enfant, qui est le mien. Vous avez épousé par un mensonge, après vous être fait veuf par un assassinat. Vous savez que je sais votre histoire. » Et maintenant je vous surprends, luttant contre cette même enfant devenue jeune fille, non pas comme un homme, mais comme une bête féroce. Comme une bête féroce, j'aurais pu vous abattre, et surtout, moi qui ai oublié bien longtemps d'où je sors, mais en touchant une épée, je me souviens de ma qualité de gentilhomme. Défendez-vous. » Le duc l'avait écouté sans l'interrompre. En l'écoutant, loin de relever l'épée, il s'était approché d'une console placée entre les deux fenêtres et dont la tablette supportait diverses armes. Il prit un revolver et l'arma. « Je vais me défendre, dit-il, mais contre un visiteur de nuit qui refuse de dire son nom, je pense avoir le choix des armes. » Il visa, un premier coup parti. L'étranger eut un tressaillement. Monsieur le duc fit virer froidement son revolver, arma et visa de nouveau. L'étranger avait fait un pas vers lui. Monsieur le duc tira, mais à peine le coup eut-il retenti que le revolver s'échappa de sa main fouettée par l'épée. L'étranger avait encore tressailli. Le duc voulut saisir une machette sur la console. Un second coup de plane épée lui fit lâcher prise. Il bondit avec un cri de rage jusqu'à l'autre extrémité de la chambre où pendait une carabine de chasse. L'étranger ramassa l'épée qui était à terre, il rejoignit le duc au moment où celui-ci armait vivement la carabine, et lui plaçant la pointe de son arme au nœud de la gorge, il lui dit « Lâchez cela et prenez ceci, ou vous êtes mort. » Il lui tendit la garde de la seconde épée. Le duc obéit enfin, faute de pouvoir faire autrement, et sans prendre posture, il lança un coup à bras raccourci dans le ventre de l'étranger, qui para sur place et dit encore « « Mettez-vous en garde !» Le duc se mit en garde, et son dernier juron fut coupé en deux par un coup droit qui lui traversa la poitrine. La porte se rouvrit en ce moment, et la duchesse de Chavès entra. Elle s'était traînée à genoux tout le long du corridor. Justine, qui reprenait ses sens, parcourut la chambre d'un regard égaré. Il y avait un homme mort, le duc de Chavès, et un autre homme qui se tenait debout, immobile, auprès de lui, serrant encore l'épée sanglante dans sa main. « Justin !» dit madame de Chavès dans un grand cri, puis elle ajouta « Ma fille, ton père, ton père !» Elle aida Justine à se relever, et toutes deux revinrent à l'étranger, qui souriait doucement, mais semblait avoir peine à se soutenir. « Justin !» répéta la duchesse, « Dieu t'a envoyé. Mon père, c'est mon père qui m'a sauvé !» Justin souriait toujours et les contemplait en extase. Il chancela, puis s'affaissa dans leurs bras aussitôt qu'elles l'eurent touché. Monsieur le duc était un tireur habile, les deux balles de son revolver avaient porté. Le lendemain, l'hôtel de Chavès était une maison déserte. À l'extérieur, au contraire, soit dans le faubourg Saint-Honoré, soit dans l'avenue Gabriel, tous les badauds du quartier semblaient s'être donné rendez-vous. Il y avait, Dieu merci, matière à chronique et à bavardage. Le corps de monsieur le duc avait été retrouvé percé d'un coup d'épée au milieu de sa chambre à coucher. Le lit était défait, quoiqu'on n'y eût point couché, les meubles étaient dérangés et un revolver tombé à terre avait tiré deux de ses coups. Les noirs et les autres domestiques interrogés avaient répondu que certains bruits s'étaient fait entendre dans la nuit, mais qu'à l'hôtel de Chavès, quand monsieur le duc rentrait ivre vers le matin, on était habitué à entendre toutes sortes de bruits. Ce n'était pas tout cependant. Le caissier et le sous-caissier de la compagnie brésilienne s'étaient éveillés fort tard au milieu d'un véritable carnage. La caisse était forcée et il y manquait une somme considérable. Ce n'était pas tout encore. Dans le pavillon, en retour sur le jardin, une pauvre jeune femme, Madame la marquise de Rosenthal, attaquée sans doute par des malfaiteurs, avait passé la nuit, garrottée et bâillonnée. Enfin, sous les bosquets des Champs-Élysées, en face du jardin de l'hôtel, une large trace de sang restait, malgré la pluie, et indiquait un ou plusieurs meurtres. Mais ici, on avait cherché en vain le corps du délit. Les badauds se racontaient les uns aux autres ces divers détails tragiques et passaient en somme une agréable journée. La justice informait. Dans l'appartement du jeune comte Hector de Sabran, assez bien remis du coup de canne plombé qu'il avait terrassé la veille sous les arbres du quai d'Orsay, nous eussions rencontré tous les personnages de notre drame rassemblés autour du lit de Justin de Vibray. Le chirurgien venait d'extraire la seconde balle et répondait désormais de l'existence du blessé. C'était Médor qui avait servi d'aide pendant l'opération. Toute la matinée, on avait craint que Justin ne survécût point à l'extraction des balles. Aussi, à tout événement, avait-il voulu mettre d'avance la main de mademoiselle Justine de Vibray, sa fille, dans celle d'Hector de Sabran. Maintenant, il dormait paisiblement, tandis que Lily et Justine, les yeux mouillés de larmes, heureuses, penchaient leur sourire au-dessus de son sommeil. Échalot et Madame Canada regardaient cela, et la célèbre Amandine, parlant au nom de la communauté, disait avec fierté, mais la larme à l'œil, « On sait se tenir à sa place. Nous n'appartenons pas à la même catégorie dans les castes de la société moderne. Par conséquent, on fera en sorte de ne point se rendre à charge des personnes qui n'oseraient pas nous dire « Fichez-nous le temps par suite des sentiments de leur cœur généreux. » Mais néanmoins, ajouta Échalot, dont la pauvre voix tremblait, on sollicite la permission d'assister dans un coin au mariage d'abord et puis au baptême, en plus de venir tous les ans voir un peu comment se porte notre ancienne fille. Post-scriptum. Quant à monsieur le marquis Saladin de Rosenthal, nous verrons quelques jours peut-être comment il employa l'argent de la compagnie brésilienne et sur quel noble théâtre il eut l'honneur de s'étrangler en avalant son dernier sabre. Fin de Mademoiselle Saphir.